Paso doble.
Paso doble.
Vendredi, bande dessinée.
La structure est pourrie, camarade. C'est le titre du roman graphique que je vous recommande cette semaine. C'est édité par Actes Sud, un roman graphique signé par l'écrivain Viken Berberian et le dessinateur Yann Quebi. Bonjour.
Bonjour.
Là, on vient d'entendre Yann Quebi.
Bonjour.
Et, bien sûr, Viken Berberian. Est-ce que vous qui êtes écrivain, vous qu'on a connu avec un premier roman qui nous a beaucoup plu à France Culture, on en a beaucoup parlé, Das Kapital, qui était une critique un peu du monde d'aujourd'hui, à travers les milieux financiers, est-ce que là, même si on est dans un autre cadre, un autre pays, l'Arménie, un autre milieu, le milieu de l'architecture, est-ce que vous considérez que c'est la suite un peu de ce que vous avez fait, c'est-à-dire la critique du monde d'aujourd'hui?
Je peux dire que c'est la suite, mais c'est aussi un départ. Parce que souvent, une suite, ça, c'est le début d'un départ aussi. Comme vous disiez, ça se passe dans un autre pays, le héros principal. C'est la première fois que j'écris sur un architecte. Et donc, c'est une histoire, surtout, à multiples tiroirs. Il y a tout d'abord le récit de l'ascension et de la chute du personnage principal qui s'appelle Frunzig. C'est un jeune prof d'architecture passionné par le béton. Et c'est l'histoire de son papa aussi, le directeur général du DAR. Le DAR, c'est le département d'architecture radicale. Et les deux veulent tout reconstruire, terminer les vieux immeubles historiques, place à renouveau. Et donc, il y a le récit de cette ville en pleine transformation, et on voit ça partout dans le monde, c'est pas que à l'Arménie. Et il y a aussi l'histoire de Frunzig et sa situation familiale, sa relation attachante avec sa maman. Et comme plein de familles, Frunzig, les parents de Frunzig se séparent quand il est jeune, et Frunzig décide d'aller en Arménie pour travailler avec son papa, qui est le directeur général de DAR. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une manière de parler des dérives de l'urbanisme, de l'architecture moderne dans les pays récemment convertis au libéralisme?
Oui, c'est une histoire, ça se passait dans beaucoup de villes, et ça se passe d'ailleurs dans beaucoup de villes où les agents d'immobilier, ils détruisent le patrimoine, tous les bâtiments classés pour construire des lieux plus rentables. Et on voit ça dans plein de pays de l'Est, dans l'Occident aussi. Mais la différence, c'est que dans l'Occident, dans les villes comme Paris et New York, il y a quand même des règles. On détruit, mais moins. Il y a des règles pour conserver l'identité collective d'une ville. Et en Arménie, c'était une ville en pleine transformation après l'indépendance à 92. Les gens, ils faisaient n'importe quoi.
Et alors, c'est ça qui rend ce récit tout à fait passionnant, parce que vous n'êtes pas à charge vis-à-vis des architectes, aussi bien du héros que de son père. On voit bien que pour eux, c'est une aubaine de pouvoir tout reconstruire. C'est le rêve d'un architecte. Donc c'est un peu plus subtil que ça, cette critique que vous avez sur qu'est-ce que la mémoire d'une ville, comment on vit avec les monuments, avec le passé, tout ça est là, mais traité d'une manière où on peut pas dire ceux-là ils sont mauvais, ceux-là ils sont bons.
Oui, c'est très important. J'aimerais aussi dire qu'il y avait un vrai personnage que je connaissais pas à l'époque quand j'ai commencé à écrire le livre. C'était le chef architecte de la ville d'Erevan, le capitale de l'Arménie. Il s'appelle Narek Sarkissian. Et ce monsieur, en fait, pendant plusieurs années, c'était son plan de refaire la ville dans sa vision et de raser, démolir des bâtiments historiques sans aucun regard vers l'identité de la ville. Mais je le connaissais pas à l'époque, voilà, il y avait un plan pour réinventer cette ville. Il y a des villes qui sont ravagées par les guerres, et Erevan était ravagée par les promoteurs immobiliers, motivés principalement par l'argent.
Vous êtes bien placé pour parler de ce genre de problématique, Vikken Berberian. Je rappelle que vous êtes né à Beyrouth, je suppose, d'une famille arménienne, et que vous avez quitté Beyrouth quand la ville commençait à disparaître sous les bombes pour aller aux États-Unis, et où vous avez grandi d'ailleurs à Los Angeles. Donc pour vous, c'est assez présent, j'allais dire, dans votre vécu. Comment êtes-vous arrivé à ce sujet, à la structure épourrie camarade? Une envie de raconter ce qui est devenu la capitale de l'Arménie, une manière aussi d'aller chercher quelques pistes de votre passé, de votre culture, de votre histoire dans une ville qui est en train de changer.
Oui, en fait, c'est une ville en plein transformation, Erevan, mais c'est très intéressant parce que dans les villes comme New York et Hong Kong et Paris, l'immobilité n'existe pas, le silence non plus. Sur chaque artère, dans chaque ruelle, dans à New York par exemple, des motocyclettes et les taxis jaunes s'amassent comme des abeilles un petit peu qui butinent affolées. Mais à Erevan, j'avais toujours l'impression que rien bouge. J'ai l'impression que la ville et la vie sont figées. C'est pareil pour l'économie, on peut dire, c'est pareil pour l'économie du pays. C'est un pays de pierre très, très, très solide et très montagneux. Et donc, c'est en transformation, mais en même temps, tu as l'impression que rien se change et tout reste pareil. Mais je voulais dire mon parcours. Oui, comme vous disiez, je suis né au Liban. J'ai grandi au Liban dans une famille arménienne. Et je n'ai pas témoigné la guerre civile, mais mon père, il a témoigné pendant plusieurs années la guerre. Et c'est important de dire que les cicatrices de la guerre civile au Liban étaient conservées dans l'architecture du pays. Et il y a un architecte, Bernard Khoury, qui a gardé les façades des immeubles qui étaient marqués par les balles.
Ouais, criblés de balles, oui, justement pour la mémoire de la ville, pour qu'on n'oublie pas.
Il a conservé ça dans son architecture pour que les gens n'oublient pas ce que s'est passé au Liban. Mais par contre, en Arménie, on a l'impression que on parle beaucoup de la reconnaissance, du génocide arménien, du passé. Mais quand on parle de l'architecture ou de la mémoire de la ville, ça devient moins important, la mémoire. Je ne sais pas pourquoi. Il faut reconnaître le génocide. Oui, c'est très important, mais il faut reconnaître la mémoire de la ville et son architecture, la façon dans laquelle les gens vivaient dans leur maison, dans leur foyer. Et ça, ils ont détruit eux-mêmes. Qui est coupable? Je pose cette question. Qui est coupable pour cette destruction? En même temps, on parle beaucoup de politique, mais c'est aussi... et de la mémoire, il y a un personnage que j'aime beaucoup dans une nouvelle de Borges, l'écrivain, qui s'appelle Funès. Et pour lui, c'est un personnage qui retient tout. Il a une capacité de retenir tout. Il n'oublie rien du tout. Tous les faits réels, tout. Mais pour créer, il faut à la fois oublier. Il faut oublier aussi pour faire quelque chose dans l'abstrait pour créer. Le présent peut pas être présent parce que sinon, en tant qu'écrivain ou illustrateur, tu es noyé dans les faits réels, dans les détails, Et donc, c'est important aussi d'oublier.
C'est assez présent dans l'histoire, dans la structure épourrie, camarade Vikken Berberian. Qu'est-ce qu'on garde dans une ville qui a été marquée, par exemple, par le communisme? Est-ce qu'il faut garder toutes ces statues, tout ce passé-là, quand on a envie, justement, de tourner la page?
Il faut surtout garder le lien ou être, ou conserver le lien entre le passé et la modernité, je pense. Je pense que ça, c'est très important.
Comment cette histoire, votre propos, cette fiction qui est vraiment basée sur des faits réels, je suppose, Viken Berberian, tout est fiction et pourtant tout est vrai. Pour les enjeux, pour l'Arménie.
Tout est vrai, tout n'est pas vrai. Parce que c'est une œuvre, ça reste une œuvre de fiction. Comme je disais, on parle beaucoup de la situation politique et économique en Arménie, mais ça reste une œuvre de fiction qu'on a inventée avec Yann. Par exemple, je ne parle pas de ce personnage, le chef d'architecture de la ville d'Erevan pendant des années de 2000. Comme je disais, je ne le connaissais pas à l'époque. Mais j'aimerais l'offrir un exemplaire de notre livre. Et peut-être... parce que c'est une situation très grave en Arménie. La République a été vidée de ses citoyens, comme on cite dans le livre, ça c'est vrai. Plus d'un million de personnes sont parties, ça c'est vrai aussi. Mais en même temps, la plupart de cette histoire est inventée. Voilà.
Alors, comment vous avez fait, comment vous avez travaillé avec Yann Kibi, par exemple? Est-ce que c'était une histoire que vous avez travaillé au fur et à mesure avec Viken Berberian, ou est-ce que toute la structure narrative, toute la fiction était finie quand vous avez commencé à réfléchir à comment la représenter, comment la dessiner?
Je pense qu'on s'est bien entendu parce que lui dans ses textes et moi dans mes dessins, on communiquait le même absurde, à la fois le même sérieux, le même tragique, en même temps un humour très second degré, voire complètement absurde, une certaine violence. Et du coup, le début de l'histoire n'était pas du tout ce qu'elle est maintenant. J'ai fait une série de 5 images. Viken voulait déjà que ce soit une bande dessinée, mais c'était trop de travail à ce moment-là. Viken a retravaillé l'histoire. Du coup, à partir des premiers éléments de texte, j'avais déjà créé une sorte d'élément d'univers visuel qui était assez fort pour moi. Les boulets de destruction, toutes les statues d'Erevan. J'avais déjà une vision très fantasmée d'Erevan. C'est comme ça que l'histoire s'est...
Sans y aller ou...
C'était une vraie volonté de pas y aller. Et je trouvais ça intéressant d'ailleurs que là, vous parliez de ce qui est fiction et de ce qui est réel. Je pense que pour qu'une histoire soit pérenne, il faut qu'elle soit vraiment fictionnelle. Et effectivement, ça parle de plein d'éléments réels. Mais moi, j'ai jamais voulu y aller. J'ai fait tout ça à partir de photos de Viken et de Google, d'images Google. Donc j'ai pris les statues, j'ai malmené la ville. En fait, on la reconnaît, mais c'est pas Erevan. C'est ça qui est intéressant, je pense.
C'est Erevan et c'est pas Erevan à la fois.
Et moi, je me suis fait un langage plastique. Je me suis créé ces personnages-là. Cette violence-là, elle est bien avec le texte de Viken. Donc il y a eu cette première ébauche dans ce magazine-là. Viken a retravaillé un texte qui était presque une pièce de théâtre parce que c'était 50 pages de dialogue. Et moi, mon travail, ça a été de faire de la mise en scène. Donc, c'est pas de la narration conventionnelle avec les codes de la bande dessinée, mais c'est de la mise en scène de théâtre. J'avais le décor, les dialogues de Viken avec quelques indications. Et après, entre nous deux, ça a été un dialogue. C'est ça qui a été super dès le début, c'est qu'on se connaissait pas. On s'est rencontrés au bout de 2-3 ans après avoir travaillé la première fois ensemble. J'ai eu le texte. J'ai fait des croquis qui ressemblaient pas à grand chose, mais Viken arrivait déjà à les lire. Et à partir de mes dessins, il a reconstruit l'histoire. À partir de l'histoire, enfin, ça a été un vrai dialogue. Et pour ça, c'était parfait.
Parlons de cette mise en scène, parce que c'est vrai que vos dessins, Yann Kibi, et c'est ça qui est vraiment très original et qui frappe dans ce travail, ils incluent le mouvement. On a l'impression qu'il y a eu plusieurs couches de dessins pour donner cette impression.
Mais je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien avec Viken, c'est-à-dire que c'est pas une démarche qui est nouvelle dans mon travail. J'ai toujours voulu avoir quelque chose de... Le mouvement est très important pour moi, disons s'approcher de quelque chose d'assez vrai, quitte à ce que ce soit bancal parfois, mélanger des choses précises, voire réalistes, avec des choses très brutales, très abstraites, admettre les ratés, presque en jouer, parce que des fois ça devient bien sûr de l'astuce dans le dessin. Ça c'est une volonté que j'ai depuis longtemps et qui allait effectivement... très bien avec le travail de Viken.
Yann, ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié dans tout ce que Yann fait, il y a une puissance dans ses dessins qui m'a attiré. Et j'ai changé de scénario plusieurs fois, contraignant Yann à refaire la mise en page, mais nous sommes restés amis quand même. Mais c'était pas facile, comme Yann disait, c'était un sacré boulot de plusieurs années.
Gros travail de rythme et d'ajustement, malgré le fait que le livre comme ça semble, je sais pas s'il semble fluide, mais il y a quelque chose qui est très dans le mouvement, texte, image, il y a pratiquement pas de bulles, peu de codes donc qu'on peut se réapproprier, avec quand même une question de rythme et d'enjeux, parce qu'il y a quand même des enjeux, en termes de dessinateur, en termes de mise en scène, il y avait quand même des enjeux de dramaturgie, quoi. Des scènes à mettre en avant, des choses à compenser avec le texte ou avec l'image, donc c'était un travail.
Mais travailler aussi avec tout le background de l'architecture, de l'histoire de l'architecture, c'est-à-dire Le Corbusier, le béton, vous arrivez à l'incarner en dessin, mais il y a aussi deux villes, une que vous connaissez pas, Erevan, mais une que vous connaissez très bien, c'est Paris, mais il y a aussi tout ce travail fait sur ce... Qu'est-ce que ça peut être l'architecture soviétique?
Mais je pense que ça, à un certain degré, comme beaucoup de codes dans ce livre-là, on s'en est un peu, je dirais pas moqué, mais on a fait ça sans se soucier des obligations. Et pour faire une BD, je suis pas Hergé, je pense qu'il faut être très très fort pour faire quelque chose de fidèle et de réaliste, et que là c'était pas le but. Et je pense que c'était l'intérêt, ce qui était marrant avec ce livre, c'était de trouver un équilibre entre fiction et absurde, et des choses qu'on malmène. Je mets des références visuelles là-dedans qui n'ont rien à voir, qui sont anachroniques, qui sont bizarres. Je prends même des statues des fois qui sont pas Erevan. Je n'ai eu aucun respect pour l'emplacement.
Oui, mais sauf que ça suit le propos du livre, c'est dans la narration aussi.
Bien sûr. Mais c'est là-dessus, je pense qu'il y a eu. Moi, je pense important dans les livres et dans ce genre de livres qui implique image et texte qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture. Et il y a le travail narratif de Viken, et il y a le mien en parallèle aussi, et on raconte tous les deux avec nos outils quelque chose, et c'est là-dessus que ça se rencontre. Mais les dessins racontent quelque chose dans les détails, dans les petites scénettes que je rajoute, dans ce que moi, la manière dont j'utilise les statues. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça a été super avec Viken, ça a été extrêmement respectueux, et on s'est tous les deux fait vachement confiance. Et à pratiquement aucun moment il m'a dit tu mets cet élément là, tu fais ça. Il m'a donné la source visuelle, j'avais son texte, j'avais une source visuelle, et à partir de là moi j'ai raconté mon histoire avec mes images, donc c'est un équilibre là-dessus. Et de toute façon il y avait la structure narrative de Viken qui était là pour soutenir le propos.
Ce que j'ai aimé dans le travail de Yann, il faut dire aussi que tous les deux on voulait prendre des risques, pas des risques architecturaux, mais des risques artistiques. Et donc, moi aussi, à la base, je suis romancier. C'est la première fois que je travaille dans ce genre. Donc, on n'avait pas de complexe quand on a commencé à travailler sur ce livre.
Comment vous travaillez, Yann Kebi? Alors là, vous avez utilisé que des crayons de couleur. Hein?
Mm-hmm. Oui, tout à fait, crayons de couleur.
J'ai l'impression qu'à certains moments, il y avait plusieurs couches de dessins que vous avez fait. Est-ce que c'est cette impression, c'est la profondeur de votre trait, de votre dessin, de votre mise en scène, ou c'est réellement plusieurs dessins que vous avez essayé de superposer?
Non, c'est un seul dessin à chaque fois. Il y a quelque chose d'assez immédiat. On m'a posé la question dernièrement, comment est-ce que je commençais à composer mes dessins? Et en fait, le rapport à l'espace est assez important dans mes dessins. C'est toujours ce qui vient structurer l'image au tout début. Donc je pense que ça va assez bien avec le propos sur l'architecture, mais ensuite c'est un dessin qui se fait assez spontanément au fur et à mesure. La question c'est de savoir quand l'arrêter, mais il y a toujours cet équilibre entre quelque chose de précis et presque fantomatique, quelque chose de propre et de sale. Je pense que le dessin, comme beaucoup de pratiques, est un mélange d'automatisme, donc de savoir, et d'accidents, d'aléatoires, de spontanéité. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Après j'ai mes automatismes. Si les gens regardent le livre, ils verront qu'il y a beaucoup de jaune par exemple. Je me passerai difficilement du jaune. Donc voilà, après moi ce qui, en tant que dessinateur pur et dur, ce qui m'intéressait aussi beaucoup dans cet exercice, c'était que c'est un livre de 300 pages, 336 pages, que j'ai exécuté disons que j'ai exécuté des dessins en 6 mois, ce qui est une très très longue période. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir où est-ce que 300 dessins ça m'amènerait en termes de résultats plastiques et d'évolution. Alors je sais pas si l'évolution a été drastique, je pense pas qu'elle a été énorme, mais la fin du livre devient plus brute, plus lâchée, plus aisée, et ça m'a fait plaisir. Il y a quelque chose de plus énergique à la fin, de presque plus assumé, moins précis, et ça me plaît.
C'est édité par Actes Sud. La structure est pourrie, camarade. Viken Berberian, Yann Kebi. Merci, messieurs. Merci beaucoup, Viken Berberian.
Merci à vous.
Et merci, Yann Kebi.
Merci beaucoup.